Bonjour, bienvenue dans La Reprise.
La Reprise, c'est le podcast qui s'intéresse à cette période nébuleuse qui précède et qui suit la fin du congé maternité et paternité et la reprise, ou pas, du travail. Lorsqu'on se met à redéfinir ses priorités au moment de sortir de la bulle créée autour de son bébé. Dans ce podcast, des mères et des pères vous raconteront sans phare comment ils et elles ont vécu leur parentalité comme leur évolution personnelle à ce moment-là. Et des experts viendront vous apporter leurs analyses et leurs outils pour cette période si particulière, mais dont on parle finalement rarement. Je suis Tinuane, la créatrice de ce podcast, et je suis moi-même dans cette phase de transition après l'arrivée de mon deuxième garçon. Je veux aider les parents à mieux se préparer à cette nouvelle vie, et je veux aussi contribuer à faire bouger les mentalités sur le sujet, à déconstruire l'injonction à la performance qui passe trop souvent sur cette période. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcasts. Interviewée Anne-Laure, c'est aller à la rencontre d'une personnalité forte et passionnée, qui vit tout à fond, sans compromis. Choisir entre carrière ou maternité, il n'en était pas question pour la féministe qu'elle est. À sa reprise, elle voulait tout. Et elle s'est donné les moyens de tout faire, y compris l'allaitement de sa fille jusqu'à ses 2 ans, quitte à ne pas écouter son corps. De l'ambition, elle en a à revendre, au bon sens du terme. De la lucidité aussi. Elle sait qu'elle a trop tiré sur la corde à ce moment-là, qu'elle n'est pas forcément un exemple à suivre. Mais son métier, c'est sa passion. Et ce sera aussi sa planche de salut, la dépression postpartum qui l'a envahie, mais qu'elle mettra du temps à comprendre. Et pourtant, lorsque le manque de valeur dans son entreprise devient trop criant, elle ne va pas hésiter à tout lâcher pour se lancer dans l'entrepreneuriat et dans la création de Boomker, sa marque de vêtements upcyclés pour enfants, qui va l'aider à se réapproprier son corps et sa maternité. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Merci de m'accueillir dans ton atelier.
Merci à toi.
On est entouré de machines à coudre, de fils, de tissus. Tu vas nous expliquer tout ça. Et avant toute chose, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, présenter ta famille, nous dire ce que tu fais dans la vie?
Oui, alors du coup, je m'appelle Anne-Laure ou Traki. Les gens m'appellent beaucoup Traki dans mon entourage. J'ai 35 ans, bientôt 36. J'habite à Montreuil et donc je suis à mon compte depuis fin 2019, quelques mois avant le Covid. Et en fait, j'ai décidé de me lancer dans une grande aventure d'entrepreneur. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je suis maman d'une petite fille qui a 3 ans et demi, enfin presque 4 ans. La maternité, c'était quelque chose de très nouveau pour moi. Son arrivée, elle a un peu tout bouleversé.
Raconte-nous ton désir d'enfant. Comment est arrivée ta fille dans ta vie?
Alors en fait, pour donc la petite histoire, donc là j'ai 35 ans, je pense que je suis restée à peu près 30 ans sans vouloir d'enfant, environ. Ouais, j'ai jamais voulu avoir d'enfant, c'était pas un projet de vie pour moi. Donc ça fait rire tout le monde parce qu'aujourd'hui j'ai quand même une marque de vêtements pour enfants. C'était à peu près le seul domaine dans lequel je voulais absolument pas travailler.
Ah oui.
Donc assez drôle quand on y pense. Pour moi, avoir des enfants, c'était je respectais bien sûr les personnes qui voulaient en avoir, mais c'était pas une fin en soi. Et bah, il se trouve que, je sais pas, j'ai dû trouver la bonne personne. Je suis en couple hétéro avec un homme. Au début de notre relation, on s'était dit que c'était pas notre truc. Et puis finalement, bah, à un moment donné, il y a eu cette envie, ce projet. Et l'idée, petit à petit, s'est dessinée. Et puis, c'est arrivé plus vite que prévu. Et je me retrouve enceinte et je suis ravie. Et c'est un super projet. Et puis bah là, je découvre en fait ce que c'est d'être une femme enceinte, puis après une maman.
Et ça fait quoi?
Alors mon réflexe, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, ça a été de sortir en boîte, de boire des shots, de danser, de mettre le body le plus serré, moulant possible, inimaginable. Et j'ai voulu vraiment voilà, profiter et me dire, je ne m'oublierai jamais. Je vais l'aimer mon enfant et je vais en prendre soin, mais par contre je ne m'oublierai jamais. Et ça a été vraiment un réflexe. Et finalement ce petit truc-là, il est resté toujours un petit peu quelque part en fait dans un coin de ma tête avec l'évolution. Il faut savoir qu'aussi, je ne l'ai pas dit, enfin, j'aime pas trop m'introduire comme ça, mais je suis quand même extrêmement sensible au féminisme, voire activiste. Et en fait, comme je ne m'étais pas vraiment intéressée au sujet de la maternité, il y a plein de choses que j'ai découvertes en fait, à ce moment-là. J'ai toujours un peu voilà, fait l'autruche sur ce sujet-là, par non-intérêt ou peut-être par peur aussi de découvrir enfin, la réalité d'une certaine manière. Et en fait, j'ai compris ce que c'était vraiment le système patriarcal. Il fait que quand t'es une femme, bah, tout est forcément plus difficile. Quand t'es une femme qui va devenir mère, femme cisgenre, j'entends, qui a un utérus et qui est là presque pour fabriquer des enfants, d'une certaine manière, c'est très violent. Et j'ai trouvé qu'il y avait un vide dans l'accompagnement des jeunes mamans, des mamans enceintes, des femmes qui veulent travailler aussi en même temps. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'injustices. Voilà. Typiquement, il n'y a pas longtemps, j'ai vu la vidéo d'une femme qui parlait des 3 premiers mois de grossesse. Où on suggère l'idée de pas forcément en parler, que voilà, il peut y avoir des soucis, etc. C'est aussi les 3 mois dans lesquels t'étais pas obligé de le dire à ton employeur encore, etc. Moi, je me suis rendu compte que les 3 premiers mois, ils étaient super violents, ils sont difficiles. Et en fait, c'est des mois où effectivement, c'est un secret. Toi, tu le sais. Éventuellement, quelques proches, voilà, si t'es en couple, la personne avec qui t'es en couple, éventuellement. Mais c'est tout. Alors que toi, t'es vraiment au fond du gouffre parce que c'est là où il y a tous les changements qui se mettent en place au niveau du corps, au niveau du mental. Tu comprends rien, tu connais rien. On te donne des mots. Que tu connais pas encore, donc c'est pas facile. Et il y a un gros vide dans l'accompagnement aujourd'hui en France sur ces 3 premiers mois-là. Après, une fois que c'est annoncé, bon bah là, d'un coup, c'est plus la même violence. Là, c'est la violence des autres aussi. Ils te projettent en fait leur propre vision de ce que c'est d'être parent. Les gens, évidemment, étaient très contents pour moi quand j'ai annoncé que j'allais être maman. Mais c'est aussi là où les gens, quand tu leur parles d'autres projets, typiquement, moi, j'avais déjà ce projet de me mettre à mon compte, de monter une agence de visuel merch et potentiellement ma marque de vêtements. Il y a beaucoup de gens qui me disaient « Oh, mais non, tu verras, donne-toi le temps, tu vas changer d'avis d'ici là, tu voudras plus faire ça, tu sais, avoir des enfants, c'est difficile, tu seras bien contente de garder ton poste, etc. etc. » En fait, il y a pas mal de gens, j'ai trouvé, qui donnaient... leur avis, en fait, tout simplement. Et donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est, que ça s'est passé. Et puis, moi, j'ai vraiment été super en forme physiquement pendant toute ma grossesse. Moralement, en revanche, c'était difficile parce que vraiment, là, j'ai compris qu'il y avait une vraie différence, en fait, entre hommes et femmes et comment on te considère, en fait, finalement, à partir du moment où tu as un ventre qui s'arrondit. Et il y avait vraiment une tendance, je trouve, de la société à te ranger dans la case maman. Alors que moi, mon boulot, c'est ma passion. J'adore ce que je fais. Je m'épanouis vraiment dans mon job depuis de nombreuses années. Donc, je fais du visual merchandising. Ça veut dire que je fais en sorte que les collections, les vêtements, soient le mieux mis en valeur possible à l'intérieur d'une boutique. Voilà, je fais ça depuis de nombreuses années. J'habille des mannequins, je prépare des projets de vitrine, etc. C'est ça, mon job. Je suis passionnée de mode depuis toujours. Et pour moi, par exemple, c'était inenvisageable d'arrêter de travailler de manière aussi dense, parce que c'est un métier aussi qui demande d'être très investi et c'est très dense. Et pour moi, mon travail, c'est ma passion, ça fait partie de moi. Il n'était pas possible de me dire que même si j'allais être maman, j'allais calmer un peu le jeu de ce côté-là. C'est m'enlever
partie de toi.
Une partie de moi, de m'imposer une réduction du travail. Voilà. Au boulot, ça a été difficile parce que justement, comme je suis quelqu'un de très investi et je me donne à fond, j'ai très mal vécu, par exemple, le fait de lâcher à la fin, avant de partir en congé maternité. Déjà, j'ai voulu partir le plus tard possible.
Oui.
Mais en fait, le fait qu'on m'impose de lâcher un peu les projets, par exemple, quand on me disait en réunion « Ah mais ce projet-là, tu seras plus là, Anne-Laure, de toute façon », c'était hyper violent parce que comment ça, je vais plus être là? Oui, mais enfin, je vais quand même valider. Vous allez m'envoyer des choses. Moi, je serai derrière mon téléphone. C'est un gros projet. J'y tiens. Je travaille 6 mois dessus. Enfin, il y avait vraiment ce côté-là où j'avais du mal à lâcher. Je me suis dit, le truc va. Alors, non pas que je me sente absolument indispensable, bien au contraire. Et il y avait des équipes hyper compétentes. Mais c'est juste que le fait de se dire que on va plus suivre un projet de A à Z et que les gens ont une tendance à oublier, enfin la vie tourne, c'était assez violent. Moi, mon boulot, c'est ma vie, donc du coup, d'un coup, je.
T'avais l'impression d'être écartée de ta vie.
Ouais, c'était comme si ça te regardera plus. Toi, tu seras occupée avec ton bébé. C'était mon hantise en fait, d'avoir cette image renvoyée, sur moi-même.
Et tu l'as ressenti, ça, dès l'annonce de ta grossesse ?
Dès l'annonce de ma grossesse, au niveau de l'entourage, ça, je l'ai senti, que l'entourage tout de suite projetait en moi une future maman et donc me disait « Ah, ça va lui faire du bien, elle va se calmer un peu, et puis elle va s'occuper de son bébé, de sa famille, etc. » Donc, il y avait un peu quelques injonctions, en fait, à ce moment-là. Au niveau du boulot, ça arrivait un petit peu plus tard. C'est plutôt quand je me rapprochais de mon départ, finalement, congé maternité, où là, j'ai vu que les gens, petit à petit, forcément, prenaient plus de place et à juste titre parce qu'il fallait pouvoir gérer les projets en mon absence. Et puis j'étais petit à petit voilà, écartée des nouveaux projets qui allaient arriver, sur lesquels je pouvais pas bosser. Donc ça c'était difficile à gérer. Faut dire aussi que j'ai un boss qui a pas très bien vécu, lui, pour le coup, mon annonce. Quand je suis venue dans son bureau pour lui dire que j'étais enceinte, en fait, il a eu une réaction trop bizarre. Il s'est pris la tête dans les mains, il s'est tapé la tête sur son bureau, il a dit « Mais non, mais pourquoi tu me fais ça ?»
Et, ouais, très classe.
Et alors là, quand il me sort ça, je suis mitigée entre être flattée, parce que je me dis « Bon, en quelque sorte, je compte pour la boîte. » Et être complètement outré, en fait, et me dire mais ça va pas la tête, je suis en train de te dire un truc qui est une bonne nouvelle pour moi, qui est un super truc, et toi tu penses ta rentabilité, ton business, et le fait que, ah merde, Anne-Laure, elle se casse. Et ça, c'était vraiment très, très bizarre, voilà. Donc du coup, ça, maintenant avec le recul, franchement, j'ai été super pisse ce jour-là, parce que il y a ce petit côté où ça m'a flatté d'une certaine manière, mais quand j'y repense aujourd'hui, en fait, j'ai envie de l'envoyer au prud'homme, en fait.
Je comprends.
Donc voilà. Après, c'est pas si ça, on peut parler de ouais d'hormones ou de trucs, ou enfin, j'en sais rien ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Mais la Anne-Laure ou la traquée que je suis aujourd'hui, en tout cas, mais jamais de la vie je laisse passer un épisode comme ça. C'était annonciateur de ce qui allait arriver. C'était annonciateur que forcément, lui allait être dans un souci de rentabilité, de remplacement, de trucs, de projets, et que moi, de toute façon, si je décidais de partir, c'est que je renonçais, en fait, à quelque chose, d'une certaine manière.
D'accord. Du coup, ta fille est arrivée ?
Ma fille est arrivée. Ma fille est arrivée en juillet, donc 2017, dans un contexte un petit peu difficile. Voilà, moi qui n'avais absolument pas peur de l'accouchement et qui me disait « De toute façon, tout le monde accouche, donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. » Et bien en fait, ça s'est passé absolument pas comme ça. Je n'ai pas réussi, entre guillemets. C'est-à-dire que mon col ne s'est pas ouvert, en fait.
Pas du tout.
Il s'est ouvert jusqu'à 5, voilà. C'est déjà une urgence, donc là, autant ça faisait déjà 3 jours que je supportais mes contractions, je faisais tout ça, enfin voilà. Autant là, même pas un quart d'heure, c'était fini, et le plus long, c'était de recoudre, en fait, c'était pas la sortie du bébé. Quand on m'a présenté le bébé, j'ai pas compris que c'était le mien, déjà. Je me suis dit, ah ok, déjà, c'est comme ça, bon, et puis voilà. Et là, j'ai eu un espèce de désir de vengeance, en fait, assez instinctif sur mon accouchement, que j'avais pas maîtrisé de la manière dont moi j'aurais voulu. Ça a été d'allaiter. Alors que l'allaitement, j'y tenais pas particulièrement. Je me suis dit, moi qui suis de nature très indépendante, je me suis dit, bon, allaitement, pourquoi pas. Mais j'en faisais pas du tout un combat personnel ou quoi que ce soit, ou j'avais pas en tout cas d'attente spécifique. Mais quand elle est arrivée, ça a été mon réflexe de « je veux que mon corps, il lui serve à quelque chose ». Et en fait, j'ai vraiment été dans l'allaitement exclusif et de manière, franchement, une extrémiste de l'allaitement aujourd'hui.
Tu faisais des prosélytismes ?
Non, parce que justement, je trouve que c'est un vrai choix et que tout le monde doit vraiment être à l'aise avec ce choix, que ce soit d'allaiter, pas d'allaiter, ou d'ailleurs parfois c'est des non-choix aussi, hein. On peut vouloir très fort allaiter et pas y arriver, c'est quand même super difficile, ou l'inverse aussi. Donc non, au contraire, moi j'incite personne à allaiter. Par contre, je sais qu'on peut donner des clés pour que ça marche, en fait, pour celles qui en ont envie. Et aussi avec la reprise du boulot, voilà, parce que ça c'est super important et que personne ne décide pour toi, en fait. Quand t'es une femme, il y a déjà tellement de choses qu'on t'impose, et encore plus quand t'es en rapport avec une naissance, la maternité, quand tu deviens parent, on t'impose tellement de choses que non, c'est plutôt quelles sont les clés qu'on peut avoir, en fait, quand un bébé arrive et qu'on a envie ou pas d'allaiter. En tout cas, moi j'en ai fait un besoin, j'étais très fière, c'était dur, mais je me suis accrochée, et puis du coup j'ai pu allaiter Yara. Donc Yara arrive, tout est chamboulé, je suis très contente malgré cet accouchement difficile. En revanche, je vis une période très compliquée avec beaucoup de flashbacks, je comprends pas pourquoi j'ai pas réussi, pourquoi j'étais nulle, etc. Et il y a eu vraiment ce besoin de se réapproprier son corps, sa vie. J'ai fait quand même, j'avais pas les mots à l'époque ou le savoir pour expliquer ce qui se passait, mais maintenant, 4 ans après, je peux le dire que j'étais en dépression postpartum. Ça a été très violent. J'ai trouvé que il y avait aucun accompagnement. T'es lâchée du jour au lendemain, en fait, dans une nouvelle vie que tu connais pas, sans aucun accompagnement. Et une sage-femme qui te rend visite de temps en temps, si tu le veux, mais c'est très faible. Il y a pas de congé postpartum. Enfin, c'est juste le congé maternité. Éventuellement, si t'es en couple, enfin, il y a potentiellement un congé parental pour le ou la partenaire, et mais il est tellement court qu'en fait il est, enfin, c'est ridicule. Il y a pas le temps en fait d'être soudé et de travailler en équipe.
Mais ton mec, il a pris les 11 jours.
Il a pris les 11 jours. Il a pris un petit peu de vacances aussi, mais du coup dans sa tête, il était, enfin, c'était un moment chill de vacances ensemble.
Oui, c'est ça. De toute façon, t'étais là pour le bébé, donc.
Ouais, c'était c'est cool, les gens viennent nous voir, on prend des coups, on fête la naissance.
Ouais, en plus c'était l'été.
En plus c'était l'été, donc il y a vraiment ce côté-là un peu relax. Et puis après, boum, la violence de lui repart au boulot, moi il me reste encore quelques temps, et après moi je vais reprendre le boulot. Et là, j'ai compris aussi le poids de la charge mentale, hein, on en parle beaucoup, mais en fait la charge mentale, elle explose à ce moment-là. Moi j'ai jamais eu l'impression dans mon couple d'avoir une égalité homme-femme, enfin, je l'ai jamais senti. De toute façon, il sait qu'il a une faire à une féministe depuis toujours, donc il y a des trucs, c'est assez clair quoi depuis le début, donc les tâches sont partagées, les charges sont partagées, enfin voilà, il y a vraiment une volonté dans notre couple, en tout cas, de voilà, qu'il n'y ait pas une personne qui porte le foyer, quoi. Ben, sauf qu'en fait, malgré ça, au moment de l'arrivée de la petite, il y a quand même des inégalités qui sautent en fait d'un coup, qui arrivent en tout cas. Et ça, c'est pas facile à digérer. Enfin, moi, je me retrouve à devoir choisir, par exemple, acheter des bodys. Je comprends rien aux tailles, je suis perdue, les centimètres et tout. Enfin, je sais même pas, moi, qu'est-ce que ça veut dire, body en 68 centimètres. Je sais pas si ça veut dire 3 ans ou 4 mois ou j'en sais rien. Donc, je lui demande des conseils. Ah, je sais pas, t'as qu'à demander à tes copines. Enfin, des trucs comme ça, pour moi, c'était violent. Moi, je sais pas plus, mais pourquoi c'est moi qui dois faire ces recherches? Pourquoi je dois passer mes heures alors que j'ai encore mal, j'ai ma cicatrice qui me tire, je suis encore en période de postpartum, j'ai encore des flashbacks, je pleure en permanence. Pourquoi je dois quand même trouver la force d'appeler des assistantes maternelles, des moyens de garde?
Parce que du coup, c'est toi qui as géré ça aussi.
Évidemment, évidemment pas du tout d'ailleurs, mais oui, c'est moi qui ai géré ça parce que lui avait repris le boulot finalement aussi à un moment donné. Donc il fallait... Et puis moi, je voulais reprendre mon travail en fait. Et moi, ma crainte, c'était, mais moi, je veux retourner au boulot, je veux pas rester bloquée à la maison avec ma fille. C'est pas ça que je veux. Donc là, il faut trouver la solution. Et donc, il y a eu une explosion de la charge mentale à ce moment-là, que je n'ai pas du tout anticipé, que je n'ai pas compris et qui était dure en parallèle. Donc, il faut s'imaginer que j'allaitais la petite en permanence. Il y avait les pics de croissance où la petite est accrochée à ton sein toute la journée, quoi, quasiment. Donc, ça fait mal, j'ai une mastite. Enfin bon, à peu près tout ce que le pire, enfin pas le pire d'ailleurs, loin de là, mais tout ce qu'on imagine un peu difficile quoi en postpartum, je crois que j'ai touché pas mal de petites choses de près ou de loin. Donc, et malgré tout, garder la patate, de garder la force, l'énergie, parce que déjà, je voulais que ma petite, qui était un bébé, mais qu'elle voit sa mère souriante, qu'elle la voit avec de la force, que je pleure pas devant elle, que je sois solide, que je sois solide aussi devant mes futurs, devant mon employeur, de lui dire, ça y est, je suis de retour, j'ai la foi, etc. Donc du coup, ça demande une sacrée énergie, en fait, cette période, et on n'en parle peut-être pas assez. Il n'y a plus d'accompagnement, ça y est, t'as accouché, donc t'es plus trop en lien avec la maternité où t'es. Si tu veux un suivi, par exemple, psychologique, c'est à toi de faire la démarche, t'as pas forcément d'accompagnement. Instinctif, je pense que la France, elle a un gros boulot à faire là-dessus. Ça devrait être une obligation, presque, d'avoir un vrai soutien pour le postpartum. Je comprends pas que ça soit pas mis en place aujourd'hui, et que ça soit juste à la demande des mères.
Tout est focus sur l'enfant, en fait, sur le bébé.
Voilà. À partir du moment où t'accouches, c'est fini. Tout est focus sur l'enfant. Voilà. Donc après, il y a un côté enveloppe. C'est un peu trash quand je dis ça, mais il y a un côté, voilà, l'enveloppe a servi, c'est bon. Voilà. Et c'est un peu trash, et j'espère que voilà, les personnes qui écoutent ne seront pas choquées d'employer ce terme-là. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mmh. Et donc, il a fallu se réapproprier. Voilà, vraiment le corps, l'énergie, le temps aussi. Voilà. Et ça, ça a été un long chemin.
Mmh. Du coup, toi, tu avais besoin de reprendre le travail pour ça?
Moi, j'ai eu besoin de reprendre le travail parce que j'aime beaucoup mon travail. J'avais hâte de reprendre ma vie, entre guillemets, d'avant, d'une certaine manière, puis de me détacher un peu de toute cette grosse période, de penser à autre chose. Enfin, je crois qu'il y a eu vraiment ce besoin, voilà, de repenser à moi en tant que femme, en fait, et pas juste en tant que maman. Et donc, évidemment, il y a eu le temps de l'adaptation. Ma petite a eu une place dans une crèche à côté de chez moi. Et je me rappelle que les premiers jours, quand je l'ai déposée, j'étais très contente. Je me dis, ça y est, je vais pouvoir refaire des trucs pour moi. Je vais pouvoir repasser du temps sur des choses, voir des copines. Enfin, voilà. Et en fait, sauf que j'avais pas compris qu'il y avait un système d'adaptation et que l'adaptation a été vraiment progressive. C'est-à-dire que au début, c'est tu la laisses un quart d'heure. Mmh. Et moi, ça me laissait même pas le temps de faire l'aller-retour avec chez moi. Et en fait, je pleurais. J'ai passé mon premier quart d'heure de la première fois où elle était gardée à pleurer dans un café pas très loin du truc. Parce que je me disais, mais c'est pas possible, en fait. C'est aliénant. Bon, puis le lendemain, c'est une demi-heure. Et je vois que ça se passe très bien. Je leur dis, mais là, vous pouvez la garder une demi-journée quand même. Ah non, 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 il faut vraiment que ça soit progressif. En plus, elle est petite, vous savez, vous la laissez tôt. Et donc, j'avais ces commentaires.
Culpabilité.
Ouais, et la culpabilité à fond. Bon, de l'entourage un petit peu, mais de la société d'une manière générale. Parce que ma petite, du coup, avait, je crois, 2 mois. C'était le minimum possible. Enfin,
2 mois et demi, je pense, voilà. De congé maternité.
Exactement. Donc, comme j'ai repris tout de suite, je n'avais rien posé derrière mon congé. Donc, elle a effectivement été gardée très tôt. C'était la plus petite à ce moment-là. Et tout le monde te fait bien sentir que, ah bah, quand même, elle est petite. Es-tu bien sûre de vouloir la laisser si petite, quand même, de 8h30 à 19h tous les jours? Et en fait, c'était hyper culpabilisant, alors qu'en vrai, moi, je savais très bien au fond de moi qu'il valait mieux qu'elle soit gardée avec des professionnels qui allaient bien s'en occuper. En plus, j'ai eu la chance qu'elle soit dans une micro-crèche, donc il y avait...
Oui, donc tout petit environnement.
Tout petit environnement, avec des âges mélangés. Enfin, c'était ce que je rêvais le plus, en fait, pour elle. Et du coup, ça avait pu être possible. Donc, je préférais qu'elle soit entourée de professionnels et qu'elle soit coucounée la journée comme ça, plutôt qu'elle soit avec une mère qui est speed, qui est encore pas hyper à l'aise avec plein de sujets, qui pleure ou qui est... Non, je voulais qu'elle me retrouve épanouie, contente, reposée. C'est super important, en fait. Mmh. Et donc, moi, j'ai pas culpabilisé, parce que même si les gens ont tenté de me culpabiliser, ça marchait pas, parce que je savais que le plus important, c'est pas qu'elle soit avec moi. Le plus important, c'est que quand elle soit avec moi, elle voit, elle sache que, elle peut compter sur moi et que je m'occupe d'elle, voilà, à fond, et qu'elle a une maman qui est heureuse, épanouie, quoi. Donc du coup, ça s'est fait progressivement, c'était long, l'adaptation c'était long, ça s'est très bien passé, et puis j'ai pu reprendre le boulot sans problème, assez rapidement.
Et du coup, quand tu as repris le boulot, ça a correspondu à tes attentes ?
Et alors, quand j'ai repris le boulot, alors il faut savoir qu'à l'époque, donc, je dirigeais un service visuel merchandising, donc pour une jolie marque de prêt-à-porter pour femmes. J'avais une équipe de 3 personnes à manager. Quand je suis arrivée, j'étais très contente de reprendre. J'ai été pleine d'envie, pleine de projets. Je me suis dit, si je reprends, en revanche, parce que j'avais vraiment envie de reprendre, mais je voulais pas reprendre pour rien. Donc, je viens pas pour faire de la réunionite aiguë et puis pour pas avancer sur des vrais sujets. Je veux vraiment mettre en place des projets qui me tenaient à cœur pour cette boîte, faire évoluer les choses, etc. Donc, j'arrive avec une espèce de motivation, mais alors...
La grosse patate, quoi.
Ouais, la grosse patate. Et en fait, je me rends compte que finalement, pendant le temps où moi j'étais pas là, les choses ont pas beaucoup évolué dans la boîte, ça a pas bien avancé. Malgré tout, mon poste, il a un petit peu évolué parce que forcément, mes équipes, elles ont pris un petit peu de place, elles se sont un peu plus installées et tant mieux parce qu'il y avait besoin forcément en mon absence. Il fallait que les choses avancent malgré tout. Il y a eu des petites réorganisations, des choses comme ça. Donc bon, il fallait que je me retrouve et que je refasse ma place. Ça, j'avoue que c'est hyper dur. Enfin, je connais mes compétences et je suis assez sûre de moi, en tout cas de ce que je vaux et de ce que je peux proposer. Donc ça ne m'a pas trop mis en difficulté, cet aspect-là. Mais par contre, c'est bien quand même de le savoir parce que ça veut dire que ça peut être très déstabilisant quand t'as ton poste et que t'arrives et qu'il faut refaire ta place. C'est presque comme t'arrives dans un nouveau job et il faut faire tes preuves. Mmh. Normalement, tes preuves, elles sont déjà faites. On sait qui tu es, on te connaît. Et en fait, là, c'est comme si tout était chamboulé. Donc ça, bon, ça s'est passé... je l'ai observé, mais ça ne m'a pas trop marqué. Par contre, ce qui a été très dur, c'est que tout le monde me renvoyait toujours au fait que je sois une maman. Mmh. Et ça, je n'ai pas compris. On me demandait tout le temps des nouvelles de ma fille. On pensait probablement
faire plaisir.
Et... voilà. Sauf que moi, c'était un enfer. Quand j'arrivais, présentation de projet, et que j'allais présenter voilà, un projet de vitrine, un projet de mise en place de collection, et que la première question qu'on me demandait, c'est « comment va ta fille ?» moi, en fait, on me renvoyait juste en pleine
ton
face.
Mon statut de mère.
Ouais, mon statut de mère. Et j'avais absolument pas envie qu'on parle de ça ici. Ouais. Là, j'étais là pour parler de mode, parler de styling, parler de vêtements, de tendances, de scénographie, mais certainement pas de ma fille. C'est pas que je voulais pas en parler, c'est juste que.
C'était pas le moment.
C'était pas le moment. J'étais complètement encore sous le choc de cet accouchement, pleine de questionnements, pleine de doutes. Faut tout réapprendre, faut tout se réapproprier. Donc, me dire ça, c'était me déstabiliser et du coup, m'empêcher de passer une présentation de projet facile pour moi. Enfin, voilà, c'était presque un affront, en fait, de me poser cette question-là. Donc ça, je ne l'ai pas bien vécu.
Et parce que tu étais la seule mère dans la boîte ?
Pas du tout.
Ah.
J'étais pas du tout la seule mère, mais peut-être parce que c'était récent, on me posait la question ou voilà, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais ça, c'était pas facile pour moi, en tout cas, à gérer. Et en fait, c'est là aussi où tu te rends compte que les gens, sans se rendre compte, hein, les femmes aussi beaucoup, sont dans un truc culpabilisant. C'est-à-dire que moi, quand je finissais mon boulot à 19h, on me disait « Ah, bah t'es encore là t'as quelqu'un qui va chercher ta fille ?» Enfin, comme si, en fait, bah, comment ça se fait elle est encore là alors qu'elle a un enfant maintenant. Elle a une enfant, elle devrait plus être là. Il y avait des choses comme ça, je me disais mais en fait je suis pas qu'une mère et puis je m'organise, enfin je veux dire
laissez-moi tranquille, je décide et je fais en conséquence quoi.
Bah oui, et ça j'ai pas compris, et en fait c'est les gens qui te rappellent que t'es mère en fait, alors que moi dans ma tête là ma casquette maman elle est rangée, et quand je suis au boulot je suis Anne-Laure l'experte du merch et basta. Et en fait ça a été dur, difficile, parce que j'ai compris qu'en fait, il y avait un vrai truc autour de la maternité, qu'une femme, en fait, à un moment donné, sa carrière, elle est carrière plus être maman, et ben c'est compatible, parce que c'est possible, mais t'as toujours des gens pour te rappeler que ta priorité, quand même, c'est ton enfant. Et moi, ça, c'est un discours que j'ai eu beaucoup pendant la grossesse et aussi au début, de tu verras quand tu seras maman, tu penseras plus la même manière à ton boulot, ça aura moins d'importance, ça sera différent, ta priorité, ça sera ta fille. En fait, la priorité, c'est moi, en fait, les gars. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, et même si j'adore ma fille et c'est mon enfant, la priorité est aussi pour elle, et ben, c'est que moi, je sois bien dans ma vie. Mmh. Et donc, et ça... C'est pas facile de tenir ce discours-là devant tout le monde. Il y a toujours des gens qui essayent de te faire comprendre que tu pourras pas être à la réunion, Anne-Laure. C'est à 20h ce soir, il y a une réunion, mais tu pourras pas être à ta fille. Bah si, en fait, je peux, je suis là, évidemment. Enfin, comme si d'un coup, on pouvait plus compter sur toi à 100%.
Mmh. Voilà, donc, on décide pour toi.
Ou on décide pour toi. Et alors ça, franchement, j'ai pas compris comment c'était possible de décider pour moi. Mais après, j'ai été très dans ce mood, du coup, de me dire, je vais prouver qu'on peut très bien être une super responsable dans une grosse boîte et en même temps avoir sa fille, l'allaiter exclusivement, etc. J'avais beaucoup de déplacements avec ce boulot-là et je trouvais le moyen de prendre le train, d'arriver avec le retour du train à la bonne heure pour que quand j'arrive, ça soit le moment de l'allaiter. Enfin, il y a eu toute une espèce de système.
D'organisation de dingue.
Ouais, je voulais que ni ma fille soit lésée et ni qu'au boulot, ça se sente en fait que presque que j'ai un enfant, quoi. Mmh. Comme si ça n'existait pas presque. Avec le recul, ça c'est pareil, cette espèce d'énergie que j'ai déployée à faire comme ça. Avec le recul, je me dis quand même, j'ai été badass, mais je sais pas si je le referais de la même manière parce que c'est aussi renoncer d'une certaine manière à certains droits, ou en tout cas le droit à la bienveillance et le droit à l'écoute aussi dans cette phase-là qui est un petit peu difficile. T'es peut-être pas obligé de passer par une phase un peu extrême de faire comme si de rien n'était. Mmh. Peut-être qu'aussi, si la société ou si le monde du salariat était plus ouvert, plus bienveillant, il y aurait des choses qui se mettraient en place de manière assez naturelle pour pas justement que les femmes aient besoin de faire ce genre d'efforts ou ce genre de concessions pour pouvoir assurer professionnellement, en fait.
Ouais, toi, c'était ta manière de dire, non mais écoutez, je suis toujours la même et je suis toujours aussi bien, bonne, ce qui comptait, quoi.
Ah ouais, moi je suis arrivée...
Donc du coup, t'en faisais encore plus que...
Bah, je pense même que j'en faisais encore plus qu'avant, ouais. Dans un temps qui était le même, ouais. J'allaitais, donc ça veut dire aussi qu'il fallait que je tire mon lait au boulot. Et il était pour moi hors de question que parce que je reprenne le travail, j'arrête d'allaiter ou en tout cas je diminue l'allaitement. Donc du coup tous les jours, alors il faut le savoir, moi je le savais pas, je l'ai découvert à ce moment-là, on a le droit à, je crois que c'est 2 fois par jour pendant 30 minutes, une pause qui est prise en charge du coup par l'employeur, c'est une obligation même de sa part, de te mettre à disposition une salle pour que tu puisses tirer ton lait, par exemple, ou allaiter l'enfant. Mmh. On peut aussi t'apporter ton enfant sur ton lieu de travail, dans cette salle-là, qui doit être dédiée à ça. Et voilà, donc moi, j'avais une personne à l'accueil, en fait, de mon siège que j'avais été voir pour lui dire, bah voilà, j'allaite ma fille, je vais avoir besoin 2 fois par jour d'avoir une petite place pour pouvoir tirer mon lait. Elle s'était renseignée pour moi et elle m'a dit, oui, bah, il y a la salle du CE. La salle du CE, où sont rangés tous les dossiers un peu confidentiels aussi de tout le monde, etc. Mais c'était la seule salle fermable à clé où on pouvait avoir accès de manière assez libre, puisque...
Il n'y a pas de réunion.
Il n'y a pas de réunion, il n'y a rien, voilà. Et en fait, j'ai le responsable du CE, qui était un homme, qui a refusé. Donc lui, je le retiens bien dans ma tête, fait partie de ma liste noire des hommes les pires de la planète, je crois. Enfin, pas les pires, mais enfin, en tout cas, voilà. Ça m'avait vraiment choqué, son comportement. Il n'a pas du tout compris, en fait, qu'il y ait besoin d'avoir accès à cette salle. Et que j'ai besoin de m'enfermer à clé aussi dedans. Et en fait, je m'étais énervée, j'ai dit, mais alors quoi, il faut que j'aille dans les toilettes, enfin... Ouais. Non, on va trouver une autre salle, etc. Et en fait, donc, du coup, on m'a donné accès à une autre salle, mais ce mec-là, moi, je me suis dit, mais à quel point... Enfin, j'en ai rien à faire des dossiers, en fait, des gens, des prud'hommes et tout, bah, c'est pas mon problème.
Mais tu veux pas fouiller, de toute façon, tu tires ton lait. Donc...
Ouais, et en fait, dans sa tête, à lui, enfin, je veux dire, s'il était arrivé avec une solution... Bon, bah, on s'en fout. Mais il n'y avait même pas de solution. C'était juste cette salle-là qui est la seule disponible là tout de suite. Non, je ne te la mets pas à disposition. Il faut trouver une autre solution. Alors moi, ça, j'ai été sidérée. Je me dis, OK, donc en fait, déjà, légalement, ça ne va pas parce qu'il n'y a aucune salle qui a été prévue à cet effet. Bon, il y a une infirmerie. On m'a dit, tu peux y aller, mais s'il y a une urgence infirmerie, ben, du coup, il faudra sortir. J'ai dit, mais vous êtes sérieux? OK, donc pas de problème, je remballe mes seins, mon petit matos, tout ça, je me casse parce que quelqu'un a besoin d'un pansement. Enfin, genre, non, c'est pas possible, en fait. Et je me suis dit, mais il n'y a rien qui est prévu. Il y a des lois pour ça, il y a des choses qui existent, mais en fait, on ne s'en sert pas vraiment. Et le monde de l'entreprise et le monde du salariat, en tout cas, ben, j'espère que c'est quelque chose qui va évoluer. Mais dans les grosses boîtes un peu qui sont structurées déjà depuis un moment, on ne se pose pas vraiment ces questions-là. Déjà, il y a très peu de personnes concernées. Moi, j'avoue que dans ma boîte, je n'avais pas vu d'autres mamans avoir ce besoin-là. Mais bon, bah, moi, je l'ai eu ce besoin, il fallait bien que je trouve ma solution. Donc au final, j'ai ma copine de l'accueil qui m'a mis de côté l'infirmerie, qui me prévenait s'il y avait quelqu'un, et comme ça, on s'arrangeait. Elle a été génialissime. Et il y a eu un vrai petit moment soror, je dirais, entre nous, parce que franchement, c'était, entre guillemets, la dame de l'accueil. Je la voyais que quand j'avais des réunions, j'accueillais des gens, etc. Et là, ça a été ma complice ultime dans la boîte, parce que c'est grâce à elle, en fait, que j'ai pu avoir accès à une salle de manière assez libre. Sans elle, j'aurais jamais pu avoir l'accès en fait à comment tirer son lait sur son lieu de travail, et qui est quand même, faut le savoir, hein, une des raisons principales de l'arrêt de l'allaitement chez les jeunes mères, leur reprise au travail.
Tout à fait. Et t'as allaité combien de temps après la reprise ?
J'ai allaité 2 ans en tout.
Ah ouais ?
Ouais, 2 ans en tout, avec vraiment beaucoup de voyages. Énormément de voyages. Donc, je gérais entre mes déplacements professionnels et l'allaitement. Alors, j'ai plein d'anecdotes un peu drôles. Je me suis retrouvée, alors un peu plus tard, presque vers ces 2 ans, à devoir chercher des glaçons partout, en fait, dans un aéroport à Dubaï, parce que...
Pour la glacière.
Ouais, il fallait que je garde le truc au frais. Il y avait quand même un long trajet. C'était un Dubaï-Paris, c'était hyper long. Et je suis en galère. Enfin, j'ai mon sachet de lait, mais moi, pour moi, mon lait maternel, c'est
de l'or.
Plus que de l'or. Ouais. Ouais, c'est une valeur inestimable. Tu renversais une goutte de lait, mais j'avais envie que toi et toute ta famille vous alliez sous terre et je ne vous vois plus jamais. Enfin, c'était un truc de fou. Alors que franchement, ce qui est drôle, c'est de se dire que j'avais pas spécialement envie d'allaiter, quoi, en plus à la base. Mais ça, c'est devenu super important. Et du coup, ouais, donc je suis dans cet aéroport à Dubaï, je vais partout, je cherche des glaçons. Et en fait, je me suis fait plein de potes dans tous les aéroports du coup d'Europe, parce que je voyageais beaucoup en Europe à un moment donné, parce que je savais vers qui demander des glaçons, des petits sachets, comment faire ma petite glacière pour que mon lait soit jamais pété la chaîne du froid du lait maternel, quoi. Et ne pas gâcher surtout tout ce travail que je faisais à distance pour que quand je revienne, ma fille ait toujours, que je sois là ou pas, du lait maternel à disposition pour elle quand elle a besoin, quoi. Donc c'était un sacré exercice, mais je m'y suis tenue parce que pour Yara, je voulais qu'elle ait cette chance de pouvoir avoir ce lait-là, en fait, d'une certaine manière, de ma part. Et aussi, moi, je voulais pas que mon boulot, même si c'est très important pour moi, ça me fasse renoncer à certains choix, du coup, de mère. Voilà. Mmh. Donc c'était comment gérer moi en tant que professionnelle, moi en tant que maman, et que, en fait, moi, je suis pas dans le compromis. Voilà, bon, c'est quelque chose qui m'est reproché parfois, mais j'aime pas du tout le compromis, et il était hors de question que je fasse des compromis ou dans ma vie de pro ou dans ma vie de mère. Donc, je voulais tout, et je me donnais les moyens de faire tout. Un peu fatigant, j'avoue.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Comment t'as réussi à tenir ?
J'ai tenu, mais parce que j'ai un mental de... quand je me fixe un challenge, je veux y arriver, en fait, et c'est mort, je vais pas lâcher. Mmh. Donc, j'y vais à fond. Je suis un peu dure avec moi-même, faut le dire aussi. Pas forcément un exemple à suivre, et bien au contraire, parce qu'en revanche, j'écoute absolument pas mon corps, et il faut qu'il m'arrive quelque chose de très grave, physiquement, je dirais, pour que je me calme, parce qu'un médecin me dit, là, stop, là, c'est un peu trop, etc. Donc, c'est pas forcément un exemple à suivre, mais moi, c'est ce qui m'a aidée souvent à réaliser les choses que j'avais envie de réaliser. Et puis voilà, là au moins, c'est moi qui ai décidé de l'arrêt de l'allaitement. Mmh. D'ailleurs, non, je dis n'importe quoi, c'est pas moi, c'est ma fille surtout. On a fait ça ensemble en tout cas. Mmh.
Parce que du coup, tu parlais de tes nombreux déplacements. Ça n'était pas question pour toi de baisser le rythme que tu avais avant en fait.
Exactement. En fait, moi, je voulais pas que, parce que j'ai une petite fille à gérer à la maison, je voulais pas que ça m'empêche de réaliser des beaux projets avec mon boulot. La boîte dans laquelle j'étais, j'en suis partie environ 6 mois après mon retour de congé maternité.
Ah oui, d'accord.
Parce que justement, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de projets riches, j'avais envie de faire plein de choses, il n'y avait pas forcément la place ou les budgets pour faire des choses. Et moi, il fallait me nourrir en fait. Là, pour le coup, moi, je nourrissais ma fille, mais en parallèle, il fallait que mon boulot, lui, me nourrisse. J'ai demandé une rupture conventionnelle pour pouvoir monter ma boîte. Mmh. Et alors là, tout le monde a paniqué. La fille, elle vient d'accoucher. Elle reprend le boulot comme une dingue. Elle bosse à fond. Et là, elle dit qu'elle veut monter sa boîte. Alors, mes parents ma mère surtout était en panique totale. Comment ça, tu vas déstabiliser le truc et tout, c'est pas possible. T'as un CDI, voilà, t'es bien. La petite, elle a quelques mois. Enfin, c'était panique générale. L'entourage, ouais, a eu du mal à comprendre d'un coup pourquoi je voulais me mettre à entreprendre. Je dis, mais ça fait 1000 ans que je vous dis que mon but, de toute façon, c'est d'entreprendre. J'ai ce truc de vouloir prendre l'initiative, de voilà. Et c'est pas parce que là, je suis maman qu'il faut que je renonce à certains de mes rêves, en fait. Mmh. C'est super important d'aller au bout de ses rêves, ses ambitions, malgré tout.
La maternité t'a confirmé dans ce choix-là.
Ça m'a confirmé.
C'était le moment où tu t'es dit, c'est maintenant.
Je me suis dit, c'est maintenant parce que j'étais en train de voir. Voilà, tout ce qu'on disait un peu plus tôt, toutes les injonctions qui sont faites aux femmes et aux mères dans l'entreprise. Ça, moi, je ne l'ai pas bien vécu. Je n'ai pas compris qu'on décide pour moi de si j'étais disponible ou pas, ou qu'on sous-entende que ce ne sera pas possible pour moi parce que j'ai un enfant. Ça, pour moi, ce n'était pas possible. Il n'a pas été possible non plus de voir à quel point, même si dans la vie, on peut avoir des élans de sororité, y a une quête de pouvoir quand même des gens, et ça, c'est tout le monde, c'est hommes et femmes, tellement importante que ça peut aller au détriment en fait des personnes qui reviennent d'un congé mat par exemple. Et tout ce côté-là que j'ai pris de pleine face en fait en reprenant le boulot, j'ai voulu m'en écarter. Et je me suis dit, moi ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier, je crois que j'ai des choses à raconter, des choses à expérimenter en tant qu'indépendante. Donc je vais m'essayer à une aventure entrepreneuriale et devenir freelance en fait sur mon secteur. Mmh. On verra comment ça va marcher. Donc moi, mon désir d'entreprendre, il a toujours été très présent et il s'est un peu renforcé parce que justement, je supportais pas trop toute cette découverte en fait de qu'est-ce que c'est de travailler en entreprise en tant que salarié une fois qu'on est parent, quoi. Mmh. Voilà. Donc ça a probablement un petit peu accéléré les choses. Après, la boîte dans laquelle j'étais avait des valeurs qui n'étaient pas forcément les miennes aussi. Ou en tout cas, il lui manquait des valeurs qui étaient très importantes pour moi. Et puis, j'ai eu plusieurs éléments déclencheurs, quoi. Il y a aussi un aspect très business et très rentabilité dans mon métier. Parce que je fais du visual merch. Le visual merch, c'est entre la créativité et aussi le business. Mmh. L'aspect business, c'est concrètement, c'est comment je fais pour que les gens consomment plus, dépensent plus d'argent chez moi, dans ma marque, et comment je fais, voilà. Et il y a eu plusieurs moments où j'ai trouvé que l'aspect business était devenu beaucoup trop important. Pour donner un exemple très concret, quand il y avait eu les attentats au Bataclan, une personne à l'époque me dit, on était toutes les deux dans une petite pièce, on prépare nos actions et nos résultats, en fait, et tout ce qu'on va faire pour la semaine suivante. Donc là, les attentats, c'était un vendredi. Nous, on se voit les lundis pour faire un point et dire quelles actions on va faire en termes de merchandising pour la semaine. Et la personne me dit, oh là là, ils tombent bien ces attentats. Au moins, ça va nous permettre de justifier nos chiffres de merde. Et là, c'est pas possible. Elle a pas dit ça. Et en fait, elle s'est rendue compte elle-même qu'elle avait dit un truc énorme, quoi. Et en fait, c'est juste que voilà, c'était pas du tout une mauvaise personne. Et elle.
Ouais, c'est le système, quoi.
C'est le système qui fait, et le groupe qui fait que t'en viens à des choix qui ne sont pas des choix bienveillants, qui ne sont pas des choix qui vont dans le sens de l'humain. Et ça, pour moi, c'était plus possible. Et malheureusement, dans les grosses structures, même si j'ai adoré y travailler et j'ai adoré apprendre, j'ai énormément appris, j'ai rencontré plein de talents, enfin, super. Il y a ce truc-là où l'effet de groupe et l'effet de masse te font avoir en fait des comportements qui sont presque des schémas attendus par le groupe et qui vraiment ôte tout l'aspect qualitatif en fait des relations humaines. Et ça, moi, ça me manquait. Mmh. Et du coup, certaines valeurs qui sont belles sur le papier, elles sont pas forcément appliquées. Ou en tout cas, voilà. Donc il y a ce truc-là qui était important. C'est ce qui m'a poussée en fait à accélérer mon départ de l'entreprise et puis de mettre à mon compte. Entre-temps, j'ai été quand même rattrapée, je suis partie de la boîte du coup, et j'ai été rattrapée par une autre entreprise qui me propose un joli poste avec une très belle maison de mode française. Et en fait, comme je n'ai pas encore tout démarré, je n'ai pas créé mes statuts ni rien, je me dis ça me fait une expérience en plus, je prends. Et cette expérience-là, en fait, c'était un poste de responsable Europe et Moyen-Orient, donc d'où le fait que je me déplace tout le temps, partout en Europe. Pour mon job, donc voilà, c'était super et pour moi c'était hors de question que parce que j'ai une petite fille à la maison, je n'aille pas monter le pop-up à Londres, super événement, ou que j'aille pas m'installer un showroom à Dubaï, enfin tout ça c'était pas possible, c'était des projets qui me plaisaient vraiment et c'était génial pour moi en fait, et c'était et donc il fallait que j'arrive à trouver la bonne organisation, le bon travail d'équipe aussi, parce que là je parle beaucoup de moi, mais ça, c'est pas possible si j'ai pas aussi un entourage derrière. C'est-à-dire que mon mari, quand même, a été extrêmement présent pour ça, parce que je lui ai donné aussi son rôle. Enfin, voilà, il n'est pas moins important que moi. C'est 50-50, donc il a aussi son rôle et aussi sa présence qui est indispensable. J'ai ma maman aussi qui m'a beaucoup aidée, qui venait, qui faisait tampon, parce que mon mari aussi avait des déplacements. Donc, elle faisait tampon pour qu'en fait, la petite... tout soit toujours pareil pour elle. Son rythme ne soit jamais chamboulé, quel que soit ce qui se passe. Mmh. Si elle a ses deux parents qui sont à l'autre bout de l'Europe, elle, en fait, son rythme, il est vraiment inchangé. Son lait, il est inchangé. Ça, c'était super important pour moi. Mais du coup, ça demandait une très grosse organisation. Ouais.
Oui, je comprends mieux pourquoi tu as tenu autant à garder ton allaitement.
C'était le lien.
C'était le lien, ouais.
Exactement. C'était vraiment le lien. Et je savais que même si moi, j'étais pas là physiquement... y avait toujours ce petit contact-là à distance, quoi. Bon, après, les déplacements ne duraient jamais très, très longtemps. C'était toujours 3-4 jours vraiment grand, grand max. Puis après, le week-end, c'était vraiment les moments pour nous, quoi, où on était très proches tout le temps. Donc, ça a été comme ça. Ça a été un rythme assez soutenu. Mais en même temps, j'étais super épanouie, très contente. Et puis, ça a duré quelques temps. Et après, donc, c'était une mission. Ce qui est très drôle, c'est que cette mission qui était un peu imprévue, je remplaçais une jeune femme qui était en congé maternité. Et en fait, ce que moi, j'avais mal vécu sur mon retour et ma reprise, je voulais lui éviter à tout prix. Mmh. Donc je me suis dit, au moins, moi, je sais qu'il y a au moins une femme qui, quand elle reviendra, elle va retrouver son poste. Il n'y aura pas 3000 requins derrière qui auront essayé de lui choper ses missions, ses projets, ses trucs. Elle va retrouver son poste tel qu'il est. Elle va être bien entourée, enfin... J'en ai fait même un combat pour cette jeune femme que je remplaçais, je ne connaissais pas du tout. Mmh. de me dire quand elle revient, je veux qu'elle soit safe, je veux qu'elle soit soutenue, quoi, et que ça, ce soit pas une difficulté, qu'elle ait pas besoin de refaire son poste, qu'elle ait pas besoin de reprouver à la terre entière ce qu'elle vaut. C'est tellement difficile comme période que je m'étais dit, voilà. Et du coup, bah, elle est revenue, elle a récupéré son poste, on est devenus amis aujourd'hui presque, ouais, donc c'est trop drôle. Mais c'est super important, en fait, et c'est quand même fou de se dire que moi, j'ai fait ce petit truc par, je dirais, conviction et presque par militantisme, en fait, auprès des femmes, de me dire j'assure que le retour se passe bien pour elles, alors qu'en fait, c'est la société qui devrait mettre des choses en place ou l'entreprise qui devrait faire en sorte que ça se passe bien, en fait. Et du coup, c'est pas forcément le cas. Oui. Donc voilà.
Pas que ce soit une initiative individuelle.
Ben, tant mieux que ça se fasse, mais je trouve que c'est encore une fois une charge et un poids que nous, on porte les femmes, qui devraient être portés par une société, en fait, et par un projet de société ou d'entreprise, mais pas des projets individuels. Sinon, c'est qu'il y a un problème, en tout cas dans le système. Et donc après, quand je suis partie de cette mission, c'est là où j'ai pu me mettre effectivement à mon compte, repartir sur mon projet de base, donc être indépendante. Et là, rebelote l'entourage, les amis qui disent « Ah bon, ça te plaisait pourtant ce boulot ils t'ont rien proposé à la fin. » Je fais « Non, mais en fait, j'ai envie d'entreprendre, c'est vraiment mon projet. » Écoutez-moi. Et en fait, j'avais ce projet de monter ma marque de mode. Je ne savais pas encore quoi, comment. Ce que je savais, c'est que ça allait être autour de l'upcycling. L'upcycling, c'est une technique où tu découpes, tu détruis en fait des anciens produits qui ne sont plus portés, ou qui sont usagés, troués, etc. Et tu recrées des pièces avec. Pour moi, ça, c'était hyper important parce que j'en faisais vraiment un parallèle aussi avec moi, comment je me réapproprie en fait mon corps, ma maternité. Et comment toute ma vie, en fait, dès que j'ai eu une galère, je me suis dit, bah, j'ai une galère, mais c'est pour mieux apprendre derrière. Il m'arrive ça, mais c'est pour rebondir. Et en fait, le vêtement, c'est un super moyen d'expression pour moi. Et j'avais envie d'explorer, du coup, cet aspect-là à l'intérieur de la marque. Je n'ai pas pu le faire tout de suite, parce qu'il fallait déjà que j'installe mon activité de consultante freelance en visual merchandising. Et puis, en fait, il y a eu le Covid. Et quand est arrivé le Covid, là, c'était le moment où j'ai perdu pas mal de clients. Les magasins sont fermés, donc moi, j'ai plus trop d'intérêt à aller monter des vitrines pour rien, quoi. Et donc, j'ai lancé la marque à ce moment-là. Et en fait, monter mon entreprise, alors que tout le monde m'avait dit « Mais tu verras, t'auras plus envie, ta fille, etc. » Enfin, il y a vraiment ce discours-là, quand même. Entreprendre, être pro et avoir un métier de passion et être maman, on dirait que presque ça, rien que ça, juste de le dire, c'est un combat, en fait. Alors que c'est, pour moi, c'était même pas un sujet. Je veux dire, un homme qui a envie d'entreprendre, on lui demande pas s'il est père ou pas, en fait. La question se pose absolument pas. Moi, elle se posait. Et en fait, du coup, j'ai lancé cette marque de vêtements où en fait, je me suis mise sur de l'enfant. Je me suis dit, en fait, je vais récupérer, moi, mes vêtements de grossesse, mes vêtements qui m'ont servi, qui m'ont coucouné à un moment donné, mais que je ne peux plus porter maintenant. Et je vais transformer ça en des vêtements pour ma fille. Et je voulais qu'il y ait un truc comme ça de transmission. Je voulais détruire, en fait, garder cette histoire des vêtements qui m'ont accompagnée à un moment donné, mais en faire quelque chose de joli et de neuf et de frais pour elle, en fait. Et le projet, il a commencé comme ça, et petit à petit, donc j'ai démarré pendant le confinement, donc j'ai fait avec ce que j'avais à disposition, c'est-à-dire mes vêtements, mes chutes de tissu, ce que je trouvais chez moi.
Il n'y avait pas d'Emmaüs, là.
Non, voilà, c'était directement chez moi que je piochais les choses, et j'ai commencé ça, à découdre, à recoudre, à déconstruire, reconstruire, et en fait... je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais après je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai parallèle quand même avec ma césarienne que j'ai absolument mal vécu, que j'ai pas attendu. Là j'avais envie de recoudre plein de choses, mais que cette fois ça soit moi qui décide en fait quand, comment, où est-ce que je coupe. Enfin il y avait vraiment ce truc là de se réapproprier bizarrement mon corps, mais à travers les collections que je propose. Et c'est génial, quoi. Je suis trop contente. Alors, évidemment, c'est dur parce que la vie d'entrepreneur, c'est pas facile. Je travaille beaucoup, même encore plus qu'avant, peut-être, mais d'une autre manière. Mais ça fait tellement du bien de se dire que c'est son projet, un autre bébé, finalement, aussi, qu'on porte, qu'on traîne, avec les valeurs qui, du coup, nous sont propres. Donc, moi, les valeurs qui me tiennent à cœur, je peux les exprimer à travers mes vêtements et à travers mon projet. J'ai pas quand je travaille avec d'autres gens, je les respecte. En fait, j'essaie de travailler avec elles ou eux, enfin elles surtout, de la meilleure manière possible. J'essaie de mettre l'humain, l'humanité en tout cas, au cœur en fait de ma réflexion et de pas être dépendante uniquement d'un aspect business, rentabilité, etc. Aujourd'hui, je gagne pas d'argent avec ma marque, mais par contre, je distribue des petits bouts de moi un peu partout avec une vraie valeur et une vraie volonté en fait de faire des choses bien et puis de faire rire les gens. Ça fait rire les gens que je leur raconte que j'ai détruit la blouse du chirurgien qui m'avait accouché pour en faire une tonique, pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est ma vengeance, en fait. Donc, ça, c'est ma vengeance. Entreprendre, ça a été ma vengeance sur la découverte de la maternité. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu et comme ça que je le vis, en tout cas.
Et c'est ta thérapie pour ta dépression ?
Exactement. J'ai commencé à aller mieux quand je me suis mise dans mon projet.
Attends, ça veut dire que pendant tout ce temps où tu surperformais au travail, t'étais pas bien ?
J'étais en dépression postpartum, personne ne le savait. Ça a été très long. Je pense même que je suis pas encore tout à fait sortie, à vrai dire, de cette période-là. Mais oui, bien sûr, moi j'étais énergisante, souriante, un peu comme tu m'as devant moi. Et puis le soir, c'était une catastrophe. Enfin, pas le soir d'ailleurs, mais quand j'étais pas en contact avec ma fille et que j'étais vraiment seule, c'était les moments où je pouvais un peu souffler. Et là, parfois, ça s'effondrait et c'était difficile. Donc, j'ai eu beaucoup besoin de prendre du temps, évidemment, pour moi aussi à ce moment-là. Mais ça a été très dur, ouais. C'était la dépression postpartum. On croit qu'on en est sorti parce que ça peut aller un petit peu mieux, mais en fait, c'est quand même, pour ma part en tout cas, c'est long, parce que même si aujourd'hui, je pense que c'est OK, et j'ai plus de problèmes, par exemple, à parler de mon accouchement ou à parler de toute cette période-là, c'était encore pas possible il y a quelques temps. J'allais m'effondrer là devant toi si tu me posais des questions comme ça, ou juste le fait d'évoquer une grossesse ou quoi, je pouvais m'effondrer, en fait. Je faisais des crises d'angoisse à la sortie de toute cette période. Quand je prenais le métro pour aller au boulot, s'il y avait une femme enceinte dans le même wagon que moi, je pouvais sortir et d'aller dans le wagon d'à côté parce que j'étais paniquée, en fait. J'avais envie de la sauver. J'avais envie de dire, mais arrête tout. C'était très, très physique, quoi, presque. Et alors après, ça a été long. Le boulot m'a aidée. Ce projet professionnel m'a aussi beaucoup aidée. Cette capacité à proposer un projet qui vienne de mes tripes, ça m'a bien, bien évidemment aidée. Et donc, comme quoi, ça, c'est vraiment le message que j'aimerais bien faire passer, c'est que le professionnel, la reprise, en fait, d'une activité qui soit différente de celle de juste être, entre guillemets, maman, et c'est hyper important et ça peut être salvateur. C'est pas forcément une contrainte, c'est pas forcément que des inconvénients et un problème d'organisation, ça peut être aussi une solution aussi parfois. Et ça, c'est un message que je tenais à faire passer parce que si on va au bout de ses rêves, de ses envies, même si c'est temporaire, on va pas se mentir, si mon projet ne marche plus, ne marche pas ou que je m'épuise parce que c'est difficile, bien sûr, je vais revenir au salariat et que ça sera comme ça. Mais par contre, aller au bout, en tout cas, de ses envies, à un moment donné, de les tester, c'est possible. Et c'est possible même quand on est maman. Voilà, c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile et je ne dis pas qu'on peut faire ça seul. Ça, c'est difficile. Mais en tout cas, voilà, il y a une possibilité. Et juste de dire que c'est possible, j'espère qu'il y a des personnes qui se diront « Ok, comment je m'y prends maintenant ?» Voilà. Et pas juste se dire « Bah non, c'est mort, voilà. » Mes rêves, c'est foutu, ma carrière, c'est foutu, etc. Non, déjà, la société est tellement dure avec nous, à nous aussi de prendre soin de nous, ouais, tout simplement.
Et à nous écouter.
Exactement. C'est le plus important, ouais. Vraiment s'écouter.
Et à ton avis, qu'est-ce qui te donne cette facilité à t'écouter ? Parce que c'est pas forcément évident. Tu te fais tellement absorber par les injonctions de toutes parts que c'est difficile d'entendre sa petite voix. Qu'est-ce qui, toi, t'a permis d'arriver à entendre ta petite voix et à la poursuivre ?
Bien, ça, c'est une très bonne question. Je sais pas. Je crois que de toute façon, j'ai pas eu le choix, en fait, surtout.
Ouais.
J'étais tellement mal après la naissance de ma fille. Il fallait que je trouve le moyen de, entre guillemets, de m'auto-guérir, d'être fière de moi. J'ai confiance en moi et je crois en moi sur cet aspect-là créatif et professionnel. Donc, c'est là où j'ai vu qu'il y avait du potentiel peut-être à m'auto-aider d'une certaine manière. Peut-être pour ça que j'ai voulu m'écouter. Après, il fallait que je le passe par là de toute façon. J'ai eu une colère en fait qui est montée en moi après la découverte donc de ce que c'était que la maternité aujourd'hui en France. Ma colère a été tellement grande. Les injustices, elles étaient tellement énormes. Tout m'a frappée en fait. Et moi qui ai toujours été très éveillée aux injustices faites aux femmes, j'ai l'impression qu'en fait, je connaissais qu'un dixième de ce qui se passait. Et là, c'est vraiment le jour de l'accouchement où je me suis dit, mais quoi ? Mais c'est pas possible. Mais on nous avait pas dit, on nous a pas prévenu de toute cette violence, on nous a pas prévenu. Et en fait, c'est au moment où je suis devenue mère, moi, que plein de femmes sont venues se confier à moi aussi. Ça passe par les sages-femmes à la maternité qui me disent, bah oui, on sait, mais si on disait tout, il y aurait plus de naissance. Ou ma mère qui me raconte son accouchement aussi. Bah maman, mais pourquoi tu me racontes ça maintenant ? J'aurais bien aimé avoir ce genre d'infos avant. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, en fait. Et le devoir de transmission entre femmes et le devoir aussi d'accompagnement, déjà la vérité, pour moi, c'est devenu super important. Et voilà, et j'ai l'impression que cette découverte, finalement, ça m'a donné encore plus de colère, mais aussi encore plus de force, en fait. Mmh. Voilà. Je me suis beaucoup, beaucoup investie depuis sur... l'aspect, je dirais, sororité, c'est-à-dire parler un maximum. Tu vois, si j'accepte aussi des invitations pour des podcasts ou des choses comme ça, c'est parce que je crois que c'est super important de parler et d'expliquer, en fait, nos vécus et de se dire qu'on n'est pas seul et qu'on ne va pas faire comme les générations d'avant. On ne va pas se dire « c'est normal, c'est comme ça » et « tais-toi, fonce et on s'en fout ». Non, en fait, on va dire les choses et c'est pas grave de pleurer, c'est pas grave d'avoir des difficultés. C'est OK de pas aimer en fait être enceinte, c'est ok d'avoir le regret maternel. Il faut qu'on en parle en fait, et ça veut pas dire qu'on est des mauvaises mères ou qu'on est des bah non, en fait, juste on a décidé d'être sincère et puis peut-être d'ouvrir un nouveau champ possible de réflexion en fait autour de la maternité, et ça c'est super important. Donc ouais, la colère elle est montée et puis bah, en fait elle me quittera plus, mais pour les bonnes raisons. Je veux pas que ça reste une aigreur ou quelque chose, un sentiment négatif ou mauvais. Moi, la colère, j'aime bien la transformer dans quelque chose de créatif et quelque chose qui donne finalement de l'énergie et du positivisme autour de moi. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je fais ces vêtements. En vrai, l'histoire de ma petite marque donc, qui s'appelle Boomker, elle est très dark en fait, parce que je pense que si j'avais pas eu de dépression de postpartum, si j'avais pas eu de césarienne, si j'avais pas aussi mal vécu en fait mes débuts avec la maternité, cette marque, elle ne verrait pas le jour. Et pourtant, mes vêtements, ils sont colorés, ils sont pleins d'énergie.
Je confirme.
Je mets de la couleur, ils imprimés partout. Enfin, je veux que ce soit une marque joyeuse. Et je crois qu'en fait, c'est ça, ma force, c'est de transformer la colère ou les injustices en quelque chose de beau et de motivant. Parce que voilà, moi, je garde un vrai espoir que les choses, elles aillent dans mon sens.
Chouette, merci beaucoup, Anne-Laure.
Merci à toi.
Le témoignage d'Anne-Laure, c'est l'incarnation même de l'entrecroisement de l'intime et du politique. Car toutes ses décisions, depuis son accouchement, semblent avoir été guidées par le besoin de se réapproprier son libre arbitre dans un système patriarcal qui restreint considérablement le champ des possibles des femmes, en les essentialisant à leur rôle de mère. La colère qui l'anime, depuis qu'elle a découvert, expérimenté les injonctions et injustices faites aux femmes devenues mères, est depuis devenue une force motrice et créatrice, au cœur de ses nouveaux projets entrepreneuriaux. Anne-Laure, on te souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure et longue vie à Boomker.
Voilà, c'est la fin de l'épisode.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram @lareprise.podcast.